En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Canal Académie rend hommage aujourd'hui à l'un de ses membres récemment disparu, Bruno Neveu. Bruno Neveu nous a quittés il y a quelques semaines lors d'un voyage d'études au Liban. Le 25 novembre 2002, il présentait la notice de son prédécesseur à l'Académie des sciences morales et politiques, Jean Humbert. Bruno Neveu évoquant Jean Humbert, nous rejoignons tout de suite la grande salle des séances de l'Institut de France.
Monsieur le Président, tous ceux qui ont approché Jean Humbert gardent le souvenir de sa spontanéité et de sa simplicité dans l'accueil et la conversation, de sa malicieuse vivacité, de sa rapidité d'esprit qui allait droit à l'essentiel et savait l'exprimer avec lucidité, de sa générosité et de sa délicatesse envers tous ceux et celles qui se tournaient vers lui. Autant de qualités et de talents qu'il est plus aisé de faire revivre dans le souvenir des témoins qui l'ont connu et apprécié que de rendre présent et perceptible à ceux pour qui il n'aura été qu'un nom sans visage, une pure référence de savoir. À défaut de pouvoir communiquer les impressions laissées par les échanges, les conversations, les correspondances, les collaborations, en un mot, la trame de la vie de société et d'amitié, au-delà même du monde collégial et restreint de l'Université de France et de l'Institut, on tentera ici de rappeler brièvement le cours d'une existence féconde et bien remplie, marquée par les succès d'une très brillante carrière. Enseignement, recherche, administration, plus tard activités académiques, ont occupé cette vie toujours si singulièrement attentive à l'appel évangélique en faveur des pauvres et des malades. Les tributs déjà rendus à sa mémoire ont fort bien retracé les étapes qui ont conduit notre confrère depuis jusqu'à une notoriété peu commune, même pour un brillant professeur agrégé des facultés de droit. Il a lui-même évoqué son enfance et sa jeunesse, avec quelques détails, lors de la remise de son épée d'académicien, le 5 novembre 1982. Né à Calais le 23 juin 1919, d'un père qui fabriquait comme ouvrier en dentelle ce tulle resté longtemps une des sources de la prospérité et de la fierté de la région, Jean-Raoul Léon Humbert fut très tôt remarqué par le directeur de son école primaire qui le présenta au concours des bourses et lui ouvrit les portes du collège de Calais qu'il dut cependant quitter rapidement en raison du départ pour des raisons économiques de sa famille pour Paris. Là, ses aptitudes devaient une seconde fois attirer l'attention, cette fois celle du curé de la paroisse de Rosny, où il suivait le catéchisme. Il fut admis au petit séminaire de Paris à Conflans-l'Archevêque, qui dispensait à la fois une excellente formation scolaire et une éducation morale et religieuse très solide, dans un climat de confiance entre maîtres et élèves, entre camarades unis par un même idéal. Le supérieur, le chanoine Hostie, laissa son empreinte sur ses générations et le souvenir de cette personnalité remarquable ne s'est pas encore perdu aujourd'hui. Avec une généreuse délicatesse, il sut convaincre le jeune Humbert qui songeait à s'éloigner faute d'une vocation suffisante au sacerdoce de demeurer au petit séminaire jusqu'au baccalauréat. Ses années studieuses ne s'effacèrent jamais de l'esprit et du cœur de l'ancien pensionnaire. Il savait ce qu'il avait reçu à Conflans, instruction, formation, culture profondément chrétienne. À un moment, sa voix paraît être à la Sorbonne, celle des études de lettres classiques, débouchant sur le professorat. Mais la mobilisation, le 15 novembre 1939, suivie de 3 mois de campagne, d'avril à juin 1940, change l'orientation de sa vie. Affecté au chantier de jeunesse de Toulouse, il s'inscrit à la faculté de droit fort renommée de cette métropole, où l'enseignement de Pierre Reynaud et de Paul Ourliac le porte décisivement à se diriger vers les disciplines juridiques, avec une préférence pour l'histoire du droit. Sa belle voix de baryton aurait pu l'entraîner vers l'opéra. N'a-t-il pas été reçu au concours d'entrée au conservatoire de Toulouse? Mais l'arrivée des Allemands dans le sud de la France le contraint, se sachant recherché, à regagner Paris plus sûr pour y occuper un poste de surveillant au lycée Fénelon et préparer avec ardeur les examens de la faculté de droit où il parcourt en 1 an et demi, à la faveur des sessions supplémentaires ouvertes pour les mobiliser, le cycle des 3 années de licence. La thèse suit avec la même célérité et le même succès. Le sujet choisi, Post Liminium, essai sur la condition juridique du prisonnier de guerre en droit romain, où se trahit l'intérêt qui ne le quittera jamais pour les victimes des infortunes du sort, fait l'objet d'une soutenance le 26 mai 1944 et lui vaut en 1945 le prix de thèse de la faculté de droit de Paris. l'auteur a su traiter avec fermeté l'ensemble d'une question profondément complexe dont l'étude avait jusqu'à lui été bornée à l'examen de points particuliers. Après un exposé sur la condition du Romain captif, il analyse d'après les textes, souvent d'interprétation controversée, la façon dont ce prisonnier recouvre ses droits au retour dans la patrie sous certaines conditions quant à l'objet, à la situation internationale, à la situation personnelle, avec des effets en des domaines très divers du droit. La conclusion laisse transparaître les motifs qui ont sans nul doute invité à conduire cette austère recherche. La science et l'étude du droit, même s'il s'agit de droit romain, doivent non seulement être un plaisir pour l'esprit, mais encore un guide pour l'avenir. La législation actuelle sur les prisonniers de guerre rapatriés devrait agrandir le cercle des faveurs accordées aux captifs. On fait beaucoup en faveur des prisonniers et dans tous les domaines. Législation industrielle, sociale, pénale et civile pour les prisonniers de guerre et leurs familles. Mais comme nous sommes loin, dans tout ce fatras de lois, bien souvent faites sans plan d'ensemble, de la hardiesse juridique des Romains. Avec ce grade de docteur brillamment conquis, c'est l'entrée dans une nouvelle existence, marquée de manière décisive cette même année 1945 par le mariage le 5 juin à Aire-sur-la-Lys avec Mademoiselle Thérèse Chombard. 4 enfants naîtront de cette union qui fut pour les deux époux tout au long de la vie un défectible attachement réciproque. La sollicitude et le dévouement de Madame Imbert ne s'interrompirent jamais. Ce fut à elle qu'il revint de transformer les multiples manuscrits du très actif auteur en impeccables dactylographies prêtes pour l'impression. Les membres de l'Académie se souviennent aussi de sa présence discrète et attentive tout près de son mari lors des séances hebdomadaires jusqu'à leurs dernières apparitions. Il fallait pour se livrer à la préparation d'un concours aussi exigeant que celui de l'agrégation une disponibilité quasi complète. Elle fut accordée à Jean Imbert sous la forme d'un poste de stagiaire au Centre national de la recherche scientifique. En 1947, dès la première candidature, fut obtenue l'agrégation des facultés de droit, histoire du droit, droit romain, et une chaire fut offerte à la faculté de droit de Nancy, où le nouveau professeur enseigna avec un vif succès jusqu'en 1958. Fidèle à un principe d'enracinement local qu'il devait respecter sans défaillance, même à l'étranger, Jean Imbert tint à consacrer une partie de ses investigations et réflexions au droit lorrain, auquel il réserva un cours, fondant un centre lorrain d'histoire du droit pour les étudiants de doctorat. Une suite d'articles illustre cette prédilection. S'il fallait en retenir un seul, on citerait volontiers dans les études de droit privé offertes à Pierre Petot en 1959 la contribution intitulée « Le régime matrimonial de la coutume de la cité de Metz », éclairant le texte de la coutume messine rédigé après l'incorporation à la France en 1552 et promulgué en 1613 par un commentaire détaillé qui fait bien ressortir la physionomie très particulière de ce droit, proche de celui des provinces régies par le droit écrit d'inspiration romaine, lequel, on le sait, n'admet pas de communauté de biens entre un homme et une femme qui se marient s'ils ne l'ont stipulé. Le droit romain, le droit coutumier, le droit canonique, le droit administratif, l'histoire des institutions et des faits sociaux durant les XVIIe et XVIIIe siècles font de leur côté l'objet des recherches méticuleuses que poursuit Jean Imbert. Les titres de livres et d'articles se pressent, et en citer même une partie excéderait les limites d'une notice qui doit se borner à renvoyer à la liste bibliographique parue dans les mélanges en hommage à Jean Imbert et complète jusqu'à l'année 1988, et que les disciples du maître disparu devraient, je l'espère, conduire jusqu'en 1999, sans manquer d'y inclure les 6 précieuses chroniques bibliographiques que chacun attendait avec impatience de découvrir dans la revue historique de droit français et étranger. On doit cependant mentionner le mémoire présenté pour obtenir le titre d'élève diplômé de la section des sciences religieuses de l'École pratique des hautes études en 1947, mémoire qui donnera le jour aussitôt au livre sur les hôpitaux en droit canonique, œuvre capitale sur laquelle il conviendra de revenir, tout comme sur la suite qui lui fut donnée. La période de Nancy est féconde, un premier état de l'exposé juridique sur le procès de Jésus, 1947, une histoire du droit privé, 1950, qui connaîtra 5 éditions, le substantiel travail sur le droit hospitalier de la Révolution et de l'Empire, 1954, la collaboration à une histoire des institutions et des faits sociaux des origines à l'aube du Moyen-Âge, 1955, une histoire des institutions et des faits sociaux, 1956-1957, dans la collection Thémis, une synthèse dans la collection Que sais-je, destinée à de nombreuses rééditions sur les hôpitaux en France, 1958. En 1958 même, Jean Imbert est élu et nommé professeur à la faculté de droit de Paris, la glorieuse héritière de la Consultissima Facultas de décret, lumière de la chrétienté médiévale et de la faculté des droits de l'Ancien Régime. Au même moment, son que sais-je sur les hôpitaux attire l'attention du ministre de la Santé publique et de la Population, Bernard Chenault, qui lui confie la mission de conseiller technique spécialement chargé de l'humanisation des hôpitaux, expression et réalité dont il faut rendre au professeur Humbert la paternité. C'est lui, en effet, qui tient la principale part dans l'élaboration de l'ordonnance hospitalière de novembre 1958 et dans la rédaction de la circulaire du 5 décembre 1958. À près de 50 ans de distance, on ne mesure peut-être plus l'étendue des changements ainsi introduits dans la vie des patients, jusque-là soumis au régime mi-monastique, mi-militaire, que Jean Humbert avait si bien décrit dans sa vaste exploration historique. Désormais, la durée des visites des familles sera largement augmentée. Elles seront permises le soir, voire la nuit, si l'état du malade est grave. L'accueil sera amélioré, les effets personnels, objets et linge, seront conservés, les horaires du lever, des repas et du coucher seront rapprochés de ceux de la vie familiale. Si l'on utilisait le langage de jadis, on dirait sans aucunement exagérer que Jean Humbert se place pour la postérité au rang des philanthropes, des amis compatissants de l'humanité. L'aspect scientifique n'en est pas pour autant délaissé, puisqu'en 1959, celui qui s'est imposé comme le spécialiste du droit et des institutions charitables et hospitalières fonde la Société française d'histoire des hôpitaux, dont il devient tout naturellement le président, et qu'il ne cessera d'animer, en particulier par des concours biannuels où il est le plus actif membre du jury. De 1959 à 1961, la carrière du professeur se déroule sous d'autres cieux. Il a été détaché auprès du ministère des Affaires étrangères pour exercer les fonctions de doyen de la faculté de droit de Phnom Penh, au Cambodge. Il quitte la France avec sa famille après avoir rédigé un que sais-je sur le droit antique et ses prolongements modernes, 1961, qui passe en revue les civilisations du Proche-Orient, la civilisation grecque et surtout la civilisation romaine, jusqu'en 476. Au Cambodge, comme à Nancy, il s'attache à connaître le cadre historique et culturel où il se trouve placé, au cœur d'une civilisation pour laquelle il éprouve attrait et respect. Cet intérêt se traduit par la publication en 1961 de l'histoire des institutions Khmer, se fondant sur les mémoires de Cheu Tak Wan, édité par Paul Pelliot, et sur le recueil des inscriptions du Cambodge publié de 1937 à 1954, base très solide, l'auteur retrace l'évolution des institutions médiévales de ce pays de 802 à 1593, insistant sur le caractère religieux de la royauté et sur la place du bouddhisme, puis il décrit le régime cambodgien, la sphère privée comme la sphère publique, pour la période moderne entre 1593 et 1907, lorsque l'influence française se manifeste de plus en plus nettement, surtout à partir du traité du 17 juin 1884 et de l'ordonnance du 11 juillet 1897, sans faire cependant disparaître les règles organisant le mariage, les successions et obligations, le droit pénal. Enfin, les institutions cambodgiennes de la période contemporaine, avant et après le traité du 8 novembre 1949 reconnaissant l'indépendance, sont traitées avec la précision d'information qui fait, tout comme la clarté d'exposition, la valeur durable des écrits du juriste historien. Les 10 années qui vont de 1962 à 1972 sont bien remplies, et des témoins encore nombreux se souviennent avec une admiration émue du rôle central et courageux joué par Jean Humbert pendant la crise de 1968, puis durant l'ingrate remise en ordre d'un système universitaire en partie ébranlé. La reprise de ses enseignements à la faculté de droit s'accompagne au retour du Cambodge d'une conférence de méthode préparatoire à l'ENA à l'Institut d'études politiques et d'une mission de conseiller technique pour les enseignements supérieurs auprès du ministre de l'Éducation nationale, Joseph Fontanet. L'intérêt soutenu pour l'histoire de l'enseignement suscite la rédaction de divers articles approfondis. Élu assesseur du doyen de la faculté de droit de Paris en 1977, le professeur devient l'année suivante directeur du centre juridique de Sceaux, rattaché à l'université Paris 11, Paris Sud. La responsabilité du centre Assas le place en 1968 dans une situation extrêmement épineuse qui exige sang-froid et jugement. Laissons ici la parole à son élève, M. Jean-Louis Harwell, qui rappelle dans son excellent In Memoriam. De mai à juillet, au prix d'efforts inouïs, d'une présence de tous les instants sur la brèche, d'un mélange d'autorité et de diplomatie, de volonté inébranlable et de patience inlassable dont il avait le secret, Jean Humbert parvient à éviter le pire. C'est grâce à lui que personne n'a été tué à Assas dans cette période. Au mois de septembre 1968, il réussit à arracher à une assemblée générale étudiante, houleuse et enfumée, un vote de reprise des examens, en sorte que la faculté de droit de Paris sera grâce à lui la première à organiser des examens réguliers à l'automne de 1968. La chose ne se fera cependant pas sans difficulté.
À Assas, Jean Humbert est physiquement pris à partie, violemment bousculé, et plusieurs assistants d'histoire du droit qui deviendront ses collègues sont obligés de lui faire un rempart de leur corps.
En 1970, Jean Humbert préside l'Assemblée constitutive de l'Université Paris-Sud et conduit les éprouvantes délibérations avec une endurance et une dextérité qui triomphent de vives et tenaces oppositions. Il est désigné comme conseiller technique spécialement chargé des enseignements supérieurs auprès du ministre de l'Éducation nationale, Edgar Faure. La réflexion et la production juridico-historique ne semblent avoir aucunement souffert de ces multiples tâches à accomplir dans l'urgence. En 1964 avaient paru quelques procès criminels des XVIIe et XVIIIe siècles avec un groupe d'étudiants. En 1965, Histoire économique des origines à 1789, qui comptera une troisième édition en 1978. En 1968, sont publiés La peine de mort, Histoire, actualité et La France et les droits de l'homme. En 1969, La pensée politique des origines à nos jours dans la collection Thémis. De la fin de 1970 à 1973, second séjour universitaire à l'étranger, cette fois au Cameroun, comme recteur de l'université de Yaoundé. De nouveau naît une publication liée à la présence outre-mer, le Cameroun, que sais-je, modèle d'heureuse concision. Sous la forme condensée, si bien accordée à sa manière de traiter un sujet, Jean Humbert aborde avec sympathie ce pays qui constitue le centre de gravité du continent noir. Comme il l'écrit lui-même, les données géographiques impliquent une forte diversité entre les provinces et il faut tenir compte aussi des assises historiques, strates du Cameroun précolonial, de la colonisation allemande, du régime du mandat, puis de la tutelle internationale jusqu'à l'intégration à l'Union française en 1946 et l'indépendance à compter du 1er janvier 1960. L'évolution sociale et culturelle contemporaine affecte le droit, la religion, l'art et les lettres, l'enseignement, la santé. Et le développement économique touche, lui, l'agriculture, la pêche, les forêts, les industries, le tourisme et le commerce. Pendant ce temps, paraît en France, en 1972, dans la collection Dossier Thémis, l'Hôpital français, consacrant la maîtrise de l'auteur sur un domaine qui devient avec lui une spécialité reconnue. Sa réputation comme professeur et comme administrateur est établie depuis longtemps déjà. Le gouvernement lui confie une mission de responsabilité, celle de recteur, pour l'Académie de Versailles, où il est en fonction de 1973 à 1975. Il est alors appelé au ministère de l'Éducation nationale comme directeur des personnels enseignants de lycée, et dès 1976, il accède à la direction des enseignements supérieurs du secrétariat d'État autonome aux universités, dirigé depuis 1976 précisément par Mme Alice Saunier-Seyté, futur confrère à l'Académie, qui l'avait vue à l'œuvre quand elle était professeure puis vice-présidente de l'Université de Paris 11 et qui deviendra en 1978 ministre des Universités. Jean Humbert conserve 3 ans ses fonctions d'un exercice délicat où il donne la mesure de ses capacités hors pair. L'administrateur ne se séparant jamais de l'historien, qui connaît à fond le passé universitaire et son complexe héritage, il se plaît à donner au public savant des études consacrées à l'enseignement. Ainsi, le lumineux article de la Revue de droit public en 1983 sur le statut particulier des enseignants de 1800 à 1980, qui présente les caractères propres au régime des personnels de l'éducation, non seulement doté des garanties habituellement reconnues aux autres corps de fonctionnaires, mais assuré d'une grande liberté de pensée et d'action. Ainsi encore l'introduction au colloque organisé par l'Institut français des sciences administratives et par l'École pratique des hautes études sur l'histoire de l'administration de l'enseignement en France de 1789 à 1981. En 1979, il devient directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires, remplissant ainsi une tâche absorbante et variée avec des aspects très concrets, puisqu'il s'agit de la vie quotidienne de toute une génération d'étudiants et d'élèves. Il demeure jusqu'en 1982 à la tête de ce service de première utilité qu'il quittera avec regret. Mais cette activité intense ne le détourne pas du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. En 1979, il offre dans sa collection de prédilection une histoire du droit privé qui suit un plan historique rendant sensible les phases successives du développement de la doctrine de l'époque franque au lendemain du Code civil du 21 mars 1804. De 1979 à 1983, il préside le Conseil de perfectionnement du Conservatoire national des arts et métiers. En 1982-1983, il préside le jury du concours d'agrégation d'histoire du droit. Il n'a pas renoncé à donner des cours à l'Université de Paris 2 et à y diriger des thèses. Il en devient tout naturellement le président en 1984, exerçant cette charge jusqu'en 1988. De 1982 à 1986, il est président de la Société d'histoire du droit. Il devient président de la Société des Amis des Universités de Paris en 1984, vice-président du Comité français des sciences historiques en 1985, vice-président du Conseil d'administration de l'École des Chartes en 1988. Depuis 1982, il est entré à l'Académie des sciences morales et politiques et participe activement, on le verra, à la vie de cette compagnie. En 1989, on lui offre des mélanges sous le titre « Histoire du droit social », volume de 572 pages renfermant 50 contributions. Les distinctions accueillies avec une tranquille modestie viennent orner sa robe rouge de professeur et son habit vert d'académicien. Au soir de sa vie, il sera commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur et de l'ordre national du mérite, chevalier de l'ordre du mérite militaire, commandeur des palmes académiques, chevalier de l'ordre de la santé publique, chevalier du mérite social, officier du mérite agricole, officier de l'ordre royal du Cambodge, chevalier bénémérenti de première classe de l'ordre souverain de Malte, commandeur de l'ordre équestre de Saint-Marin, officier de l'ordre national du mérite camerounais, commandeur de l'ordre du Sud du Liban. La liste déjà abondante des publications s'accroît encore après la célébration des mélanges. Parmi les titres qui s'imposent d'emblée, le procès de Jésus en 1980, la protection sociale sous la Révolution française en 1990, le droit hospitalier de l'Ancien Régime en 1993, ainsi qu'une contribution au tome 2 de l'histoire de la fonction publique en France, et en 1994, les temps carolingiens, livre substantiel sur lequel on va revenir. Président du Conseil scientifique du Comité d'histoire de la sécurité sociale, Jean Humbert dirige avec grand soin la rédaction du Guide du chercheur en histoire de la protection sociale pour le XIXe siècle, paru en 1997. Les problèmes religieux envisagés sous l'angle du droit et des institutions l'ont toujours attiré. On le voit donner en 1987 une vigoureuse introduction aux actes du colloque Administration et Église, du Concordat à la séparation de l'Église et de l'État, paru en 1987. Il s'y qualifie de « généraliste », ce qui paraît avant tout une élégance vis-à-vis des spécialistes qui ont offert une contribution, car il est lui aussi en possession d'un savoir nourri d'exigeante érudition, mais rappelle qu'il est également doué de la faculté enviable de voir d'en haut les questions, de tirer les conclusions, d'ouvrir les perspectives. Il n'est pas seulement savant, mais historien de race et juriste de la vieille roche qui saisit et traite les sujets avec aisance et élévation. Pour s'en convaincre, ouvrons un de ses derniers ouvrages depuis longtemps préparé et médité, le premier volume de l'histoire du droit et des institutions de l'Église en Occident, les temps carolingiens 741-891. La synthèse ici offerte par Jean Humbert présente tous les traits qui ont caractérisé précédemment ses écrits, fermeté classique du plan, clarté magistrale de l'exposé, richesse de la documentation, prudence des hypothèses. Ce beau livre austère vient couronner de nombreuses études antérieures qui préparaient directement l'auteur à son propos. Celui-ci exigeait une concentration des moyens et un éclairage zénital que seul pouvait permettre une longue réflexion. Aussi, ce volume tard venu s'impose au lecteur averti comme un travail de premier ordre, d'abord par son harmonie entre droit et histoire, abondance des faits allégués, chronologie précise, mais encore analyse proprement juridique des concepts qui règlent la marche des institutions. Tout au long se reconnaît, au-delà de l'intelligente utilisation de la littérature, du sujet, des 100 dernières années, l'influence de Gabriel Le Bras, fondateur de la collection, maître de Jean Humbert à l'École pratique des hautes études, fin connaisseur des textes juridiques et canoniques, mais encore observateur à la pénétrante intuition des réalités de la vie chrétienne. Il serait à souhaiter que les élèves de Jean Humbert, nombreux et fidèles, puissent recueillir en un ou deux volumes une partie des articles parus depuis 1945 en suivant le plan adopté par les mélanges de 1989. Droit antique, histoire du droit privé, histoire hospitalière, histoire du droit et de la société, problèmes d'enseignement et de recherche. Cette sélection d'études illustrerait de la meilleure façon la fécondité, la continuité et l'originalité de travaux conduits sans défaillance pendant plus de 50 ans. La valeur de l'œuvre lui assure une longue survie pour des raisons qu'un rapide examen, fût-il choix arbitraire, met aisément en lumière. Le recteur Humbert ne s'est pas contenté de la notoriété d'un grand professeur d'histoire du droit, de l'écho d'un nom destiné à rester familier aux enseignants et aux étudiants pendant quelques générations. Il existe en effet un domaine dont il a été l'explorateur, un sujet d'étude qui lui doit d'être aujourd'hui reconnu et d'avoir sa place parmi les savoirs spécialisés. C'est l'histoire des hôpitaux et à travers elle de la charité et de l'assistance publique. Cette curiosité, cette prédilection n'ont pour ainsi dire jamais cessé de s'exercer sur lui. Elles se sont même fortifiées avec le temps, les enquêtes, la direction des travaux. L'ample fresque qui se déploie des débuts du Moyen-Âge au XIXe siècle ne pouvait être réalisée en quelques années. C'était l'œuvre de toute une vie. À l'origine de cette vocation, la sollicitude, la compassion pour les pauvres, les orphelins, les malades, les aliénés, bref, tous ceux qui souffrent d'une infortune, d'une défaillance, qui les place ou les rejette en marge de la société. Celle-ci, nourrie des principes du christianisme, n'est pas restée indifférente à ces maux. Elle a esquissé, mis au point, des remèdes, par exemple les léproseries, le tour pour les enfants abandonnés, à plus grande échelle les hôpitaux généraux. Rien de plus attachant pour un homme de pensée, de générosité aussi, que d'observer le lent développement des formes très diverses d'assistance, privées et publiques, religieuses et civiles, urbaines et rurales. Une poussière de monographies consciencieuses, quoique sans vue générale, avait peu à peu précisé, pour Paris et pour chaque province, l'histoire de bon nombre d'établissements hospitaliers et charitables, dont les archives, souvent très riches encore, livrent une foule de documents révélateurs. Mais la synthèse de ces centaines de travaux d'érudition locale n'avait pas été tentée sérieusement. Par une singulière rencontre, l'un des rares ouvrages de valeur du XIXe siècle est dû à l'un des prédécesseurs de Jean Humbert sur son siège d'académicien, Armand Husson, auteur d'une volumineuse publication parue en 1862, « Histoire des hôpitaux considérés sous le rapport de leur construction ». L'œuvre d'histoire hospitalière de Jean Humbert comporte, en dehors de divers articles, plusieurs grands massifs qui ont vu le jour, sans ordre chronologique des périodes traitées, en 1947, 1954, 1990 et 1993. On voudrait ici reprendre, de manière évidemment plus que succincte, le fil de ces substantiels exposés, dont la suite forme un véritable monument imprimé et fait de son auteur, pour bien longtemps, le guide et le modèle de tous ceux qui, à présent, se consacrent à cette branche florissante de la recherche historique et sociale. Dans une première période, des origines au XVIe siècle, l'hôpital est essentiellement une œuvre de charité, directement inspirée des conseils évangéliques. Les établissements hospitaliers, déjà présents au Ve siècle, apparaissent comme une partie distincte du patrimoine de l'Église, de véritables personnes morales. Les soins temporels donnés à l'hospitalisé ne sont qu'un moyen pour atteindre l'âme. Les ressources hospitalières ne font l'objet d'aucune réglementation officielle. Elles sont laissées à l'initiative de la charité individuelle qui s'exprime par des dons et des legs. Les actes de fondation respirent au Moyen-Âge une piété profonde. Locus religionis, l'hôpital dispose d'un patrimoine assuré de pérennité. Il est soustrait au paiement des dîmes et impôts. On compte beaucoup de petits établissements, de 3 à 25 places, desservis par un personnel restreint, le maître et quelques frères et sœurs, et dans les villes, de grands hôtels-dieux où l'on accueille tous les types d'infortunes, malades, femmes enceintes, vieillards, enfants abandonnés ou orphelins. La lutte contre la lèpre entre dans le domaine de la protection sanitaire, les maladreries recoupent les mésos, soumis à un statut très particulier d'isolement en communauté. Ces léproseries se videront peu à peu dès le XIVe siècle, tout en conservant un patrimoine parfois considérable. La technique médicale dans les hôpitaux est plutôt rudimentaire. Remèdes simples, sirops, saignées, bains, praticiens non résidents, médecins et barbiers chirurgiens. La direction de l'établissement peut être confiée au titulaire, soit à titre de bénéfice ecclésiastique, soit en simple administration. Le service est assuré par un personnel qui se place tout naturellement dans le cadre d'une communauté religieuse de frères et de sœurs, avec noviciat, profession, habits, règles et disciplines strictes. La plus large partie des finances hospitalières provient habituellement du revenu des immeubles, domaines et maisons, auxquels s'ajoute le produit des quêtes. L'emplacement des hôtels-dieux au centre des villes, proche la cathédrale, invite à une architecture ample et parfois majestueuse, comme à Angers ou à Beaune. Chapelles et salles des malades atteignent de vastes dimensions.
Vous écoutez Canal Académie.
Pour la période qui va du XVIe au XIXe siècle, étudiée par Jean Humbert avec « Le droit hospitalier de l'Ancien Régime » paru en 1993 et « Le droit hospitalier de la Révolution et de l'Empire » dès 1954, on peut définir l'hôpital non plus comme œuvre de charité, mais comme œuvre de bienfaisance. L'administration ecclésiastique n'est plus en état d'assurer le soin des malades et la réception des pauvres, ni de mettre fin aux abus que provoque l'intervention laïque. Les municipalités, les parlements en arrivent à surveiller étroitement la gestion des directeurs d'établissements, le cas le plus exemplaire étant celui de l'Hôtel-Dieu de Paris, où le chapitre de Notre-Dame abandonne le soin du temporel à une commission de 8 bourgeois. Par ailleurs, le grand aumônier du roi s'adjuge un droit de regard reconnu en 1543 qui autorise les officiers royaux à intervenir localement en matière hospitalière, discipline comme finance. Une taxe communale est instaurée, le droit des pauvres, on procède à des incorporations, ce qui est déjà une atteinte au respect des fondations. Le renfermement des pauvres, qui pose un problème aigu de sécurité, 40 000 mendiants dans la capitale vers 1650, conduit en 1656 Louis XIV à créer sous le nom d'Hôpital Général de Paris un vaste complexe qui groupe 5 établissements, mesure étendue en 1662 à toute la province, où l'on comptera jusqu'à 33 établissements de ce genre. La rigueur du régime de ces maisons, qu'une certaine historiographie, un moment en vogue, a trop hâtivement décrite comme des lieux de répression, ne doit pas faire oublier l'élan de charité chrétienne qui suscite la naissance de nombreuses congrégations hospitalières, surtout féminines, comme celle des Filles de la Charité de M. Vincent, qui, en 1789, assureront la marche de 426 établissements. Au XVIIIe siècle, des philanthropes fondent des hôpitaux, ainsi à Paris, Mme Necker, Cochin, Beaujon, noms qui nous parlent encore. Il reste qu'à la fin de l'Ancien Régime, aucune réforme sérieuse n'a été réalisée, que l'anarchie règne dans l'administration et que les principes sanitaires et les techniques médicales sont peu développés. L'hôpital continue à accueillir les infortunes sociales autant que les malades et les ressources traditionnelles en bienfonds réduites par l'édit de 1749 ne sont pas suffisantes malgré divers expédients, tandis que les bureaux hospitaliers, composés fort diversement, défendent jalousement leur pouvoir. Les 2185 hôpitaux de France subissent de plein fouet les réformes décidées dès 1789 qui provoquent rapidement l'écroulement des structures, la ruine des établissements, spoliés de leurs patrimoines et recettes, incapables de nourrir et de soigner malades, orphelins et aliénés. La convention entre 1792 et 1795 laïcise l'administration et le personnel et nationalise les biens. Le directoire met fin à cet interventionnisme brouillon et déclamatoire et institue un régime uniforme par la loi du 16 Vendémiaire en 5 qui remet aux administrations municipales la surveillance des établissements hospitaliers confiée à 5 membres, dont le maire, président. Le consulat et l'empire renforcent la centralisation avec le pouvoir de tutelle du préfet et le contrôle des comptes. Tout au long du XIXe siècle, des établissements privés vont se développer en marge du système public et connaîtront la même évolution, amélioration des soins et diversification de la clientèle hospitalière qui n'est plus composée des seuls indigents. Jean Humbert, loin de se désintéresser de l'histoire hospitalière contemporaine, lui consacre des pages attentives et toujours très riches en informations sur le régime juridique et administratif, objet de continuelles réformes depuis un demi-siècle. La vaste fresque hospitalière et sociale, brossée avec tant de persévérance et de talent, n'a pas suffi pour accaparer le temps et les forces de l'historien et du juriste, servi par sa vitalité et sa régularité à sa table de travail. Faute de pouvoir évoquer les très nombreux titres parus, voire les énumérer, on peut s'arrêter quelques instants devant deux ou trois médaillons où l'auteur a su inscrire avec maîtrise un grand sujet dans le cadre d'un ouvrage concis à l'extrême. Fruit d'études et de réflexions prolongées, le livre sur la peine de mort, Histoire, Actualité, fut publié en 1967, plus de 20 ans avant l'abolition en France de la peine capitale en septembre 1981. Jean Humbert doit faire face ici aux difficultés que soulèvera pour lui le procès de Jésus. Une bibliographie surabondante, la tentation presque irrésistible de prendre parti tout de go. L'ouvrage triomphe de ces obstacles en présentant un aperçu d'un grand équilibre solidement enraciné dans le sol documentaire. On peut ici parler du paradoxe français, tant de chaleureux plaidoyers, tant de savants travaux auxquels répond le maintien de la peine de mort, tempéré, il est vrai, par la reconnaissance des circonstances atténuantes en 1832, par l'usage du droit de grâce et par l'abolition en matière politique en 1848. L'Association française contre la peine de mort n'est créée que le 20 novembre 1959. Le sentiment de justice populaire continue à considérer que seule l'élimination radicale du coupable peut compenser certains crimes odieux. En revanche, la majorité des théologiens se séparent de la tradition établie et s'orientent vers une conception médicinale plus miséricordieuse, tandis que criminalistes et sociologues s'interrogent sur les facteurs criminogènes, sur la réhabilitation et la récusation, avec le difficile problème des peines de remplacement. Laissons s'exprimer en conclusion l'homme tout autant que l'auteur. Le jury d'assises devrait selon lui être supprimé, ou tout au moins il faudrait instituer une cour d'appel d'assises. La peine capitale devrait demeurer dans l'ordre de la justice militaire seule et dans le cas de subversion du pays. Au contraire, en temps de paix et en droit commun, l'échafaud ne trouve plus aucune justification ni théorique ni pratique dans un pays comme la France. Comme autrefois la torture, la peine de mort doit maintenant être rayée de nos institutions judiciaires. On ne s'éloigne pas de cette question de vie et de mort avec le procès de Jésus, paru en Que sais-je en 1980. Jean Humbert y affronte, en reprenant plusieurs de ses études antérieures, un point de droit que seul pouvait traiter avec compétence un savant versé dans les droits antiques et principalement le droit romain. Nul n'ignore que la réponse donnée quant à la responsabilité de la mise à mort du Christ entraîne des conséquences d'une haute portée théologique, politique et sociale. Sujet périlleux que les passions de jadis et d'hier n'ont jamais permis d'examiner avec tout le détachement voulu. Fort au courant de l'état des analyses et des hypothèses antérieurement avancées à propos de ce problème encore brûlant, Jean Humbert a su réaliser un véritable tour de force dans les limites étroites exigées par l'éditeur. La neutralité de la présentation est d'emblée déclarée. Cette étude se bornera volontairement aux aspects techniques du procès proprement dit. Nous souhaitons apporter aux croyants comme aux incroyants des éléments de réflexion fondés sur une analyse objective, comme nous le ferions en étudiant tout autre procès. En conclusion, plutôt que de dire avec Renan et Mommsen que le procès de Jésus est un procès juif sanctionné par l'autorité romaine, selon la procédure de l'exequatur, Jean Humbert tient à rappeler que les deux accusations devant les deux instances n'ont pas été de même nature. Plan religieux devant le Sanhédrin, puis politique devant Pilate. Ces deux affaires coexistent, mais ne se pénètrent pas. Jésus est condamné par l'autorité romaine pour crime de lèse-majesté, de haute trahison. L'auteur livre encore des pages fort instructives, sur lesquelles on aimerait ici s'arrêter, sur la crucifixion et la mise au tombeau, mais il faut surtout retenir pour achever le chapitre 6, l'apparition d'un nouvel antisémitisme, sans que les membres nés d'une assimilation entre la foule juive ameutée contre Jésus et le peuple d'Israël qui ne saurait porter collectivement le poids du meurtre, ainsi que l'antijudaïsme chrétien soutenu par une certaine forme d'exégèse l'en a chargé.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de l'histoire. Leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Radio Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Radio Canal Académie.
Vous écoutez Canal Académie.
On aura relevé au fil de ce résumé trop cursif les points sur lesquels Jean Humbert apporte une confirmation décisive grâce à sa maîtrise du droit romain et plus généralement du raisonnement juridique. L'épisode de la libération de Barabbas, celui du lavement des mains, sont ainsi éclairés et l'ensemble du procès retrouve son organicité. L'intérêt que l'historien a porté toute sa vie à la sphère religieuse et qui l'avait conduit à consacrer une part très importante de son œuvre à des questions relevant du droit canonique et de l'histoire des institutions ecclésiastiques de l'Empire romain tardif jusqu'à nos jours, l'a invité à la rédaction d'une brève mise au point sur l'Église catholique dans la France contemporaine, parue en 1990. Cette publication répond exactement à la manière propre à l'auteur de traiter un très vaste sujet en répondant avec ordre et sobriété aux questions que se posent le public cultivé et les étudiants des facultés. Il s'agit pour l'essentiel de faire mieux saisir au lecteur les effets de la réforme en profondeur qu'a proposé et imposé le Second Concile du Vatican, tenu de 1962 à 1965. Que l'on s'en réjouisse ou qu'on le regrette, cet événement conciliaire a en effet affecté en profondeur non seulement la théologie, l'ecclésiologie, la liturgie, la missiologie, mais les rapports des fidèles avec l'autorité de juridiction et de magistère, les relations de l'Église avec le monde et celles du Saint-Siège avec les États. Jean Humbert, avec le même équilibre observé plus haut sur des questions aussi délicates que les responsabilités dans le procès de Jésus ou que les arguments favorables ou opposés à la peine de mort, décrit et interprète avec une sorte d'impassibilité les phénomènes très divers que la probité invite à prendre en considération quand on doit tracer un tableau du catholicisme contemporain dans un pays de très ancienne chrétienté qui a mis au point une forme sui generis de laïcité. À la faveur de ces trois évocations, on aura reconnu ou découvert les qualités qui ont permis à Jean Humbert d'entrer en communication avec un public plus large que celui des seuls spécialistes de telle ou telle branche du savoir historique et juridique. Son œuvre écrite paraît ainsi protégée d'une rapide obsolescence, tant par l'exactitude et la pondération des travaux de haute recherche que par la vigueur synthétique des publications destinées à des lecteurs cultivés. Un portrait, une simple esquisse même de la physionomie intellectuelle et morale du recteur Jean Humbert serait regrettablement inachevée si n'y figurait, fût-ce d'un trait léger, la présence et l'activité académique durant quasi 20 années d'appartenance à l'Institut de France. Élu membre de l'Académie des sciences morales et politiques le 22 mars 1982, il laissait voir peu à peu sa fierté, peu après sa fierté et sa joie en prononçant lors de sa remise d'épée un remerciement plein de verve et de naturel en réponse au discours de messieurs Tabatoni et Bonnefous et de madame Boulet-Sautel. « Souvent, depuis mon élection, déclarait-il, on m'a posé la question. Mais que font donc les académiciens ? La réponse pourrait être multiforme. L'académie donne des consultations, des avis au gouvernement ou aux autorités qui les sollicitent, parfois même sans qu'elles les sollicitent. Elle récompense les mérites intellectuels ou sociaux par des prix qui ont plus de poids moral que de valeur marchande, et elle remplit bien d'autres activités trop longues à énumérer. Mais il est un aspect plus égoïste dont on ne parle jamais. Chaque académicien s'instruit au contact de ses confrères, il bénéficie des communications présentées et des discussions qui les suivent, leur variété, certains diraient leur pluridisciplinarité, ouvre le cœur et l'esprit aux multiples problèmes du monde d'hier, d'aujourd'hui et de demain. L'académie est avant tout un éminent foyer de culture au sens le plus large du terme. Les confrères qui l'ont connu se souviennent de sa fidélité persistante aux séances, quand les atteintes de la maladie qui devait avoir raison de ses énergies se firent sentir. Conduit à l'Institut par Madame Humbert, il écoutait les communications, le regard toujours vif, et intervenait incisivement dans la discussion. Il n'est pas prêt d'être oublié en ces lieux. On ne pouvait envisager dans la présente notice ni de se livrer à l'évaluation détaillée d'une œuvre ample et neuve, ni de faire revivre par une mosaïque d'anecdotes une personnalité à la vie riche et active, mais seulement de communiquer l'impression née de l'intimité si particulière qui s'établit à la faveur d'un commerce suivi, une véritable incubation de plusieurs mois entre l'académicien passé sur une autre rive et celui que le destin lui a donné comme successeur. Ce dernier, le successeur, a voulu remplir sa tâche de son mieux, soutenu par la pietas academica et par le sentiment personnel de reconnaissance et d'admiration pour cette vie et cette œuvre conduite en sereine et féconde harmonie entre enseignements universitaires, sciences juridiques, historiques et sociales et missions d'intérêt public de haute responsabilité.
C'était Bruno Neveu prononçant la notice de Jean Humbert, son prédécesseur à l'Académie des sciences morales et politiques, vie et œuvre de l'académicien par Bruno Neveu en salle des séances le 25 novembre 2002, l'occasion pour Canal Académie de rendre hommage à M. Neveu disparu, je vous le rappelle, au Liban lors d'un voyage d'études au mois de mai 2004. Vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité de ses travaux académiques sur le site internet de l'Académie des sciences morales et politiques. Voici l'adresse www.asmp.fr.